Félix-Antoine Parent est là pour les nouvelles locales et régionales. On commence par parler de Gracefield, un budget de 8,1 millions pour Gracefield en 2022.
La ville de Gracefield, effectivement, pourra compter sur un budget de 8,1 millions de dollars pour assurer le bon fonctionnement de ses services et pour réaliser divers investissements en 2022. Comme les dépenses prévues au budget excèdent les revenus, le budget a été équilibré par différents moyens, sans toutefois devoir aller piger dans les coffres de la ville. Cette année, Gracefield a pu compter sur une augmentation de près de 25 % des revenus provenant de la taxe sur la valeur foncière qui se chiffre à un peu plus de 5,2 millions de dollars. Le maire explique que cette hausse a permis de maintenir un taux de taxe raisonnable sans devoir diminuer les services aux citoyens. Au contraire, le maire Mathieu Caron précise.
Bien, il aurait fallu couper dans les services aux citoyens. Ça nous a permis de remonter un plein service du côté de l'urbanisme. Ça vient donner un bon coup de main.
Les plus grandes variations au niveau des charges de la ville de Gracefield se situent au niveau du poste aménagement, urbanisme et zonage qui a augmenté de 165 000 $ et du poste loisirs et culture qui est en hausse de 150 000 $. Le taux de taxe a été fixé à 94,7 sous par tranche de 100 $ d'évaluation foncière, soit environ 5 sous de plus qu'en 2021. En contrepartie, la ville n'imposera plus une tarification pour certains de ses services. On écoute encore Mathieu Caron.
On avait une taxe de service qui était pour l'urbanisme et pour le service des loisirs. On a éliminé la taxe de service, qui est un montant fixe par compte de taxe, et on l'a retourné complètement sur la taxation générale. Donc, ça vient faire monter, mettons, le taux de taxation. Mais si on n'avait pas fait ça, on aurait pu voir une diminution du taux de taxation, là.
Gracefield prévoit aussi des dépenses de l'ordre de 13 millions de dollars en immobilisation d'ici 2024. Ce sujet fera l'objet d'une autre nouvelle sur nos ondes.
Aumont qui souhaite s'acquérir d'un camion à réservoir d'eau.
Depuis un certain temps, Aumont souhaite ajouter un camion à réservoir d'eau à sa flotte de véhicules. Après quelques recherches, le maire d'Aumont, Alphée Moreau, mentionne que la municipalité aurait trouvé un camion de ce genre à vendre, mais il souhaite qu'une inspection du véhicule soit effectuée avant d'entreprendre les démarches d'achat.
On a un camion en vue, mais on attend de le faire inspecter et puis de voir s'il est conforme à nos besoins et en même temps s'il est dans les montants qu'on veut dépenser pour un tel camion.
Le maire Moreau souligne que cet achat serait un ajout important pour Aumont, mais également pour les autres municipalités. Il mentionne qu'il n'y aurait qu'un seul camion réservoir d'eau et que ce véhicule aurait à peine à répondre aux besoins. Alphée Moreau explique.
Ce serait un ajout pour nous, mais en même temps aussi pour les autres municipalités, parce qu'on a un camion de réservoir présentement, mais qui n'est pas suffisamment pour remplir, disons, notre schéma d'incendie. Fait qu'en ajoutant ce camion-là, on va être plus que potable, disons, dans le sens de remplir notre mandat de schéma de prévention d'incendie.
La municipalité ne veut pas dévoiler le montant qu'elle serait prête à dépenser pour cet achat, puisqu'elle suppose qu'elle ne sera pas la seule municipalité qui souhaiterait mettre la main sur ce camion.
L'ouverture des bars saluée, même à 50 % de la capacité.
Les propriétaires de bars s'entendent sur une chose, il était plus que temps que les établissements rouvrent. C'est la date du 28 février qui donnait enfin accès aux bars. Il y a encore des mesures en vigueur, là, telles que le port obligatoire du masque lorsqu'on est, on est debout, le passeport vaccinal, le bar rempli à seulement 50 % de sa capacité, la fermeture à minuit. Rien qui ne puisse empêcher les clients de retrouver un de leurs endroits préférés. Ronald Cross, propriétaire de chez Martineau à Maniwaki, nous parle de l'attitude des clients à la réouverture.
On n'avait pas le droit de se donner une caresse, mais on était fiers de se rencontrer. Ah, le monde était de bonne humeur. J'ai des clients, là, que c'est le seul endroit qu'ils viennent pour socialiser, puis t'es en maison deux mois et demi, trois mois, là, c'est pas facile pour certaines personnes. Donc, hier, là, il y avait tout le beau sourire.
C'est dès le 14 mars, soit environ deux ans après la toute première fermeture, que les bars pourront enfin ouvrir à 100 % de leur capacité. À ce moment, l'ensemble des mesures sanitaires sera levé à l'exception du port du masque. Du côté de Ronald Cross, il est très heureux de pouvoir accueillir sa clientèle, même à 50 % de sa capacité.
C'est ouvert. On rouvre à 8 heures le matin, puis on ferme à minuit le soir. Puis bienvenue à tout le monde, puis venez nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de vous servir.
Il ne reste plus qu'à attendre jusqu'au 14 mars pour un peu plus de liberté dans les bars, mais c'est déjà un commencement qui est bien salué là, du côté des propriétaires.
Tout à fait. Félix-Antoine, on pourra te retrouver pendant l'heure du dîner pour l'émission L'heure juste. Plusieurs sujets très intéressants qui sont au menu, comme à l'habitude. Rapidement, je pense qu'on va revenir sur l'histoire rocambolesque. On peut l'appeler comme ça, hein, qui est arrivé à deux hommes de la région. Avec qui tu t'es entretenu déjà à ce sujet-là?
C'est M. Jean-François Gagnon, qui est l'un des deux. En fait, lui et son père Jean-Maurice Gagnon sont partis en pleine nuit, là, dans la nuit de mercredi à jeudi la semaine passée, pour aller secourir deux de leurs amis qui étaient coincés en forêt depuis 48 heures. Donc, c'est des héros. Eux, hein, tu sais, on est mal fait dans la vie. Hein. Quand on fait des affaires, on se dit, ben c'est tout naturel. Je suis pas un héros. Tout le monde l'aurait fait. C'était mon chum.
Ouais.
Mais non, c'est mais pas tout le monde qui l'aurait fait. C'est les seuls qui l'ont fait.
Oui, c'est ça. S'ils l'avaient la pas preuve, fait, il n'y avait pas d'autre monde.
Non, c'est les seuls qui l'ont fait. Puis s'ils ne l'avaient pas fait, probablement qu'on n'aurait jamais retrouvé ces deux hommes-là. Ou en tout cas, on les aurait retrouvés parce qu'ils n'étaient pas perdus en forêt. Là. Ils étaient juste sur le bord de la route.
Oui.
Mais une route qui est très, 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 très peu fréquentée. Donc, probablement qu'on les aurait retrouvés là à un moment donné, mais qui aurait été trop tard.
Ils savaient comment revenir, mais c'était le nombre de kilomètres à parcourir sans la motoneige qui était
dans l'épaisseur de neige. Ça. Puis là, avec le froid, on manque d'énergie. Chaque pas devient un effort insoutenable. Là, c'est pas évident. T'sais, marcher 10 km sur de l'asphalte ou marcher dans deux pieds de neige quand t'as pas dormi de la nuit, t'as faim, t'as pas mangé, t'as ci, t'as ça, t'as pas bu.
Forêt en hiver, c'est épouvantable. C'est, ouais, même si bien équipé, les gens qui le font en camping sauvage, bien équipé, c'est des.
Ça gruge
c'est
l'énergie, il y a de la chaleur, conserver sa chaleur, t'sais, produire de la chaleur, ouais. Ça gruge beaucoup d'énergie. Bref. C'est une histoire à écouter. Puis on va jaser aussi du dossier Sopfeu avec le porte-parole du comité d'urgence Sopfeu, Jean-Paul Gélinas, à savoir qu'est-ce qu'eux font là maintenant. Parce qu'ils sont pas prêts à lâcher les armes, eux. Mais comment ils vont se battre? Mm-hmm. C'est quoi leur espoir? Où est-ce qu'il réside cet espoir-là? On en jase là sur le coup de midi.
Mais merci.